RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et nos drôles de dames sont là. Alors Fred Hermel sera avec nous sur les coups de 23h avec des surprises, puisqu'il va arriver dans quelques instants, notre Fredo. Il a fait le voyage.
Il croque les ballons d'or, lui. Hein.
Ah ouais, de Luka Modric, enfin, du Real Madrid, rien que ça. Simone Rovera est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Allez Simone. Ils sont où les Italiens dans le ballon d'or là? Il n'y en a aucun?
Donde stai?
Ah bah. Ben, je crois pas qu'il y en ait un dans les 5 ans. Hein.
Ouais, Buffon, c'est une année compliquée.
Buffon, non, rien.
Bah, on va répartir Victor.
Non, il y est pas.
Écoute, si on a un peu mis dans la première liste, après. S'il si était là,
il pourrait y être, après tout, pourquoi pas.
Si, je pense qu'il y avait des absents importants dans cette liste.
Messieurs, accueillons Julien Laurence également qui est avec nous. Bonsoir, Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va, Julien?
Salut, Julien.
Super, merci.
Oh,
super.
Quel beau dimanche après-midi il a passé, lui.
Ah oui.
On va y revenir dans quelques
instants. Ça ne peut caler.
Il a été accueilli comment, le ballon d'or en Angleterre, là, Luka Modric, ancien de Tottenham, justement, on va l'évoquer dans quelques instants.
Ouais, bah justement, hein, c'est pour ça. Les Anglais aiment beaucoup leurs anciens joueurs, notamment. Ils peuvent toujours se targuer d'avoir participé à l'éclosion du talent phénoménal de Luka Modric après ces années ici. Donc forcément, pour eux, il y a pas de scandale sur le fait qu'ils gagnent le Ballon d'Or du tout. Sur la place de Raphaël Varane, je pense que c'est un peu comme dans tous les autres pays, ils ont du mal un peu à comprendre comment ils se retrouvent 7e, mais sinon voilà, ils ont relevé la 10e place d'Harry Kane, De Bruyne et Hazard, les autres joueurs de première ligue aussi dans les 10 premiers. Donc pour eux, voilà, il y a
Salah 6 ou 7, je sais plus.
6. Salah 6 ou 7, voilà aussi, et puis 6, c'est ça après Messi. Salah, donc voilà, tu fais 6 8 9 10 pour la première ligue, ils sont plutôt satisfaits.
Et alors Tottenham,
puisqu'on en parle, les Anglais, le premier Anglais, il est où, Julien?
Kane 10,
pas mal. 10.
Harry Kane 10e,
meilleur buteur du mondial quand même. 10.
Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal.
Et alors toi, tu t'es régalé ce week-end, mon Julien. Voilà, 3 derbies. On va commencer par le derby du week-end. Alors le match qu'il fallait très certainement voir d'ailleurs ce week-end. Arsenal Tottenham, victoire 4-2 des Gunners. Match complètement dingue. Arsenal qui a mené 1-0, qui ensuite a été mené 2-1 et qui finalement s'impose 4-2. C'était vraiment un match extraordinaire. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le match référence qui manquait à Unai Emery?
Ouais, alors c'est le match de la saison déjà, sans aucun doute, en première ligue jusqu'à maintenant. On a eu 14 journées, c'est sans aucun problème, sans aucun débat, le match de la saison pour l'instant. Le match référence, bien sûr, pour ce nouvel Arsenal, celui de Unai Emery. Un match beaucoup plus compliqué pour Tottenham et pour Mauricio Pochettino. On reparlera peut-être tout à l'heure de certains de ses choix tactiques, notamment comme de laisser Toby Alderweireld sur le banc de touche, qui est une décision quand même assez incroyable, hein, pour un club comme Tottenham et un entraîneur comme Pochettino. On a eu des polémiques avec cette peau de banane jetée vers Pierre-Emerick Aubameyang après son penalty. On a eu Eric Dier qui fait chute au supporter d'Arsenal après son but à lui pour faire un partout. Mais quand tu fais chute, il faut que tu sois bien sûr qu'à la fin tu gagnes, hein. Parce que si tu perds 4-2 après avoir fait chute
trop tôt, quoi.
Bah, tu passes pour un imbécile, quoi.
Si
voilà, c'est ça.
Après c'est bien ça, mais ça voilà, pimente un peu le truc.
Oui, bien sûr,
Julien, deux secondes, mais quand on sait comment ça se passe en Angleterre dans les stades maintenant, le mec qui jette la peau de banane à Aubameyang, je veux dire, soit il a
été arrêté, ça y est là.
C'est ce que j'allais te dire. Soit le mec, il est arrivé, et il a pas de cerveau, il est complètement teubé, quoi. Soit le mec, il sait qu'il remettra plus jamais. Non seulement qu'il va se faire arrêter, qu'il remettra plus jamais les pieds dans un stade. Si son cerveau fonctionne un tout petit peu, il sait qu'il peut pas s'en sortir.
Le mec se dit,
il est malade, le mec.
Tu crois, enfin, c'est si facile de trouver le mec qui a jeté une peau de banane
en Angleterre. Alors là, je peux te dire qu'en Angleterre, le mec, il a arrêté dans la foulée.
Parce que c'est pas.
Enfin, tu vois, impossible qu'ils s'en sortent.
Enfin, tant mieux.
Ils l'ont attrapé tout de suite.
Ah, ben ils l'ont attrapé direct en Angleterre.
Mais en Angleterre,
du coup, ils vont.
C'est tout à fait normal. Mais je m'essaye de mettre dans sa tête, mec, si.
Au
niveau de connerie, il doit.
La manière pour faire ça, de toute manière, c'est que dans la tête, t'es débile, quoi.
Ouais, mais en plus, pour te l'afficher. Donc t'es doublement con, quoi.
Non, mais je veux dire, une fois que t'es débile. C'est-à-dire que tu dois pouvoir penser le faire.
Ouais, mais tu peux être débile et aimer aller au stade. Donc en fait, tu te grilles pas pour pouvoir y retourner. Là, tu vas plus jamais y aller, quoi.
Je pense que t'es débile parce que ça, tu penses que c'est rien de grave. C'est ça que je pense.
Oui, c'est peut-être même pire. Oui, t'as raison, c'est encore pire. Plus.
Ouais, mais enfin, il doit quand même se douter que s'il va se faire gauler, quand même.
Ou italienne, il est habitué qu'elle peut tout faire.
Des fois, j'aime bien essayer d'être dans la tête des
cons,
types.
On aura toujours du mal à les comprendre.
Comment ça marche.
Allez, c'est même pas être con, là, c'est être plus que con. Ouais.
Comment on dit en Italie, Simone? La mère des cons est toujours enceinte.
Ouais, c'est ça. C'est bien. comment tu dis en VO, du coup?
Ouais.
Comment ça dit en italien?
La madre des crétines est sempre incinta.
Ah, ouais.
C'est joli, c'est mignon. Et du coup, ça fait 19 matchs de suite sans défaite pour Arsenal. Alors, qui en plus prend, enfin monte dans le top 4, Julien.
Julien, toi qui tu vis en Angleterre depuis longtemps, mais quand même t'es français et tu sais ce qui se dit en France. T'avais pourtant prévenu tout le monde en Angleterre que t'avais bien prévenu que Emery était une grosse pipe.
Aller boire un café.
J'avais été vraiment objectif.
Parce qu'en France, tout le monde le prenait pour une grosse pipe quand même. Tu le sais ça.
C'est pour ça, c'est en train de plus en plus de ressortir ici en Angleterre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Pourquoi est-ce que
ça n'a pas forcément marché? Pourquoi les grands experts du foot en France le prenaient pour une pipe?
Il l'a expliqué. C'est dommage, c'est intéressant.
Oui, mais justement, on continue dans quelques instants.
RMC, PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, c'est bon!
Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Pierre Ducrot, nos drôles de dames sont là. Julien Laurent, c'était là il y a quelques instants. Simone Rovera également. David Lortolari nous a rejoint. Et il est en retard, David.
Allô, Freunde.
T'étais où, toi?
J'étais dans le métro.
Mais laisse-le, c'est ça.
Ouais, il est venu trouver mon Lorto et garde-la.
C'est fou. À une certaine heure, le métro, bon, voilà.
Il est bondé, c'est ça?
Il est moins fréquent, on va dire.
Ah. D'accord, ouais. Très bien.
Bon, on était avec Julien en train de parler du derby.
Alors, bouge pas.
Il faut y revenir.
On va y revenir dans quelques minutes. Juste, on va se faire une parenthèse, là. On vous l'avait promis sur les coups de 23h. Il est très occupé, notre Fred Hermel. Il a un jet privé qui l'attend. Bonsoir, Fredo. Il est là, Fred Hermel, ou pas?
Ah, t'es fou, il préfère aller dans son
jet privé.
Il va revenir, Fred Hermel. Julien Laurent, t'es toujours là ou pas?
Bien sûr, toujours là.
On parlait d'Unai Emery. Non, et moi j'allais, on parlait du fait que Julien en Angleterre nous disait que ça commençait à parler effectivement comment au PSG ça n'a pas pu marcher, etc. Mais moi j'allais dire, et toi Daniel, tu disais effectivement il y a beaucoup qu'on critiquait Unai Emery ici. Nous, Unai Emery, quand il part, il explique pourquoi ça n'a pas marché au PSG. Il explique qu'au bout de 3 mois, il n'a pas pu imposer ses principes de jeu et que c'est lui qui a dû s'adapter à ce que les joueurs voulaient faire. Donc on en revient toujours au même problème.
Ce pourquoi il a eu quelques difficultés, on le sait.
C'est parce qu'il n'a pas été soutenu tout simplement
pourquoi autant d'experts l'ont immédiatement qualifié d'énorme pipe, ça je ne l'ai toujours pas compris.
Est-ce que c'est une erreur de sa part d'avoir de s'être adapté finalement et de ne pas avoir continué, quitte à ce que ça ne marche pas pour lui?
On ne va pas refaire le débat d'il y a 2 ans. Ce que c'est...
Non mais pour un coach, tu vois, c'est un truc général.
Et le championnat de France où il est traité comme un moins que rien. C'est pas qu'il reste sans travail pendant 1 mois, 1 an, 10 ans. Non, c'est que immédiatement il intègre la première ligue dans un club phare de ce championnat.
Et il succède à Wenger.
Et que rapidement ça se passe bien. Est-ce qu'au bout d'un moment, dans ce pays, les gens vont arrêter de raconter n'importe quoi quand ils parlent de foot?
Mais c'est tout ce que je veux dire. Tu parles des médias, des experts,
mais même tous les consultants qui sont des hommes de terrain qui l'ont qualifié de pipe.
D'accord. J'allais dire les supporters. Parce que moi, je sais que les supporters du Paris Saint-Germain, tous n'étaient pas.
Je parle de ceux qui sont censés connaître le foot.
On va retrouver Fred. Salut, Fred.
Hola, Ticos.
Bon alors, elle est comment la soirée, Fredo?
Elle est très belle, dans un endroit merveilleux qui s'appelle le Grand Palais à Paris.
Où Modric a reçu le Ballon d'Or, donc.
Pour Modric, a reçu le Ballon d'Or, avec une petite déception, puisque Griezmann n'est que troisième. Mais je voudrais commencer par ça, avant de parler de Modric, qui a tout à fait mérité ce Ballon d'Or. Je voudrais souligner la classe, l'élégance, la gentillesse et le fair play d'un Français qui s'appelle Antoine Griezmann. Parce que, bien entendu, qu'il était très déçu. Il a appris il y a une dizaine de jours qu'il n'était pas Ballon d'Or, alors qu'en étant vainqueur du Mondial, il pouvait logiquement et légitimement aspirer à ce trophée. Et Griezmann est là ce soir. Et là, c'est vraiment la classe. Et la manière dont il se comportait avec tout le monde. J'étais avec lui avant à l'aéroport de Madrid, avant son décollage pour la cérémonie.
Ah, petit problème de liaison avec Fred. Tiens, on va l'écouter, tiens, justement, Antoine Griezmann, qui s'est confié au micro de Jordan Olivier, juste après la récompense attribuée d'ailleurs à Luka Modric. Forcément, il était quand même déçu, Antoine Griezmann.
La déception, comme on me l'a dit, normal, mais voilà, après ce soir, c'est une grande soirée. C'était un plaisir d'être ici. Et maintenant, il faut que je rentre, je peux pas continuer la fête, félicitations à Modric, à la fille de Lyon, pardon, je me rappelle plus de son nom, et à Kylian.
Alors la fille de Lyon, c'est Ada Herberger, qui est la première, c'est le premier ballon d'or féminin, tout simplement la lyonnaise. Voilà, donc elle a été récompensée ce soir. Et donc Griezmann, on le rappelle, qui a terminé troisième de ce classement derrière Modric et Cristiano Ronaldo. On va retrouver Fred Hermel dans quelques instants. On a des petits problèmes de liaison avec lui. Il est là, Fredo. T'es là, Fredo?
Oui, je suis de retour. Voilà. Ah oui, on a beau être dans le bassin de Paris, il y a que de la 3G. Alors voilà, donc voilà, on va faire à l'ancienne avec une bonne ligne de téléphone. Donc ce que je vous disais, c'est que, et on vient de l'écouter, Antoine Griezmann est déçu, mais il a beaucoup de classe parce que voilà, c'était pas évident pour lui de venir ce soir, mais il a insisté pour être là, pour répondre à l'invitation de France Football et montrer qu'il portait très haut les couleurs de l'équipe de France et de son club d'Atlético de Madrid. L'Atlético aussi représenté par Thomas Lemar, aussi représenté par Lucas Hernandez. Il me quitte plus cela. Et le président Enrique Cerezo, donc belle représentation des Colchoneros. Et j'insiste, au risque de ne répéter, Griezmann a beaucoup de fair-play et beaucoup de classe. Et je pense qu'on peut l'applaudir ce soir pour cela.
Alors un mot quand même sur le vainqueur, sur Luka Modric. Alors sur les Madrilènes d'une façon générale, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette 7e place de Raphaël Varane. Tu as pu en parler un peu avec lui?
Non, je n'ai pas pu parler à Raphaël Varane puisque Raphaël Varane a décidé de ne pas venir ce soir. Et je suis le premier à le regretter.
Très bien. Et t'as fait le voyage, je crois, depuis Madrid avec les Madrilènes, toi, non?
Voilà, en fait, il y avait deux avions. Je pouvais partir avec deux avions, finalement. Bon, les petits fours étaient meilleurs dans l'avion du Real. Donc, j'ai voyagé à côté de Luka Modric, enfin, le rang juste devant lui. Un garçon que j'ai interviewé il y a une dizaine de jours avec Thierry Marchand et dont l'interview officielle sortira, bien entendu, demain dans l'interview officielle Ballon d'Or dans France Football. Bah, Modric, c'est un gamin. Un gamin de la guerre des Balkans qui a vu son grand-père mourir pendant la guerre, qui jouait avec un ballon sous les bombes et qui aujourd'hui gagne le trophée le plus important que peut individuel du football mondial et qui le mérite et qui aussi, moi ce que j'aime chez lui, contrairement à certains joueurs qu'on a pu voir par le passé, même s'ils sont très sympathiques, il n'a jamais pensé que cela lui était dû. Et donc il avait cette joie de quelqu'un à qui on a annoncé une très bonne surprise. Et quand j'étais chez lui il y a une dizaine de jours, bah voilà, c'était un type normal, un type normal qui a un prix extraordinaire et qui est vraiment très heureux. Et cette fraîcheur-là, je trouve qu'elle fait du bien. Il y a deux monstres qui sont Ronaldo et Messi qui sont partagés ce ballon d'or pendant une décennie. Lui-même, Modric, je vous le dirai demain dans l'interview, dit « Mais moi, je peux pas me comparer à eux, mais voilà, cette année, il s'est passé ça. » Donc c'est d'autant plus extraordinaire pour lui de gagner ce ballon d'or que pendant 10 ans, bah, deux joueurs se sont partagés, deux joueurs extraordinaires et qui seront de nouveau en course l'année prochaine pour le ballon d'or. Donc Modric, alors je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que Modric, il est élu par un collège de 180 journalistes. Il est finaliste du mondial et il gagne la Ligue des Champions. En 2010, c'était la première année à l'époque où le FIFA World Player et le ballon d'or étaient unis. Le collège de journalistes avait élu Modric. Donc si on avait pris à l'époque que le collège de journalistes, il y aurait, Schneider qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter et qui avait fait finaliste avec les Pays-Bas du Mondial. Donc finalement, on retrouve cette logique qu'il y avait en 2010. Les journalistes avaient voté pour Schneider à l'époque et cette année, ils ont voté pour Luka Modric. Voilà, donc il y a une sorte de logique par rapport à ça. Les journalistes ont les 180 jurés de par le monde ont donné beaucoup de poids à la Ligue des Champions par rapport au Mondial. Après, on peut penser aussi qu'avec Griezmann 3e et Mbappé 5e et 4e, il y a eu peut-être une division de voix qui a été préjudiciable d'un côté à Mbappé et de l'autre à Griezmann.
Ok, merci beaucoup Fredo pour toutes ces infos. Voilà, t'hésites pas, si t'as des petites pépites dans la soirée, si tu veux nous appeler depuis la boîte de nuit, vous allez aller avec les Madrilènes, hein, t'hésites pas surtout.
Voilà, et j'ai une petite histoire à vous raconter aussi.
Ah bah il y en a, vas-y.
Ben non, parce que quand Modric m'a envoyé son adresse pour aller chez lui pour l'interview, je me dis, mais je la connais cette adresse, je la connais. J'arrive, je la connaissais, c'était la maison d'Anelka à Madrid. Donc Modric habite dans la maison qu'occupait Anelka quand il était joueur du Real. Voilà, petite anecdote.
Ça a bien marché.
Ça m'a rappelé ma jeunesse.
Merci mon Fredo.
Adios,
bonne soirée Fredo, bisous Fredo. Merci. Messieurs, on retourne en Angleterre avec Julien Laurence. On a évoqué donc la victoire d'Arsenal 4-2 face à Tottenham. Autre victoire importante Julien, autre derby.
Juste et je fais rapide. Il y a une stat qui veut dire beaucoup cette saison sur ce qu'a apporté Emery à cette équipe d'Arsenal, mais en première ligue. Sur l'impact de ces changements tactiques en cours de match, hier par exemple, il change 3 fois de système tactique, mais au niveau aussi des changements de joueur. Parce que, bon, voilà, hier, tactiquement, il a tout bon du début à la fin. Son 3-4-3 du départ marche très bien. À la mi-temps, quand il fait entrer Lacazette et Ramsey, ça marche très bien. Et à la fin, avec Guendouzi, ça marche très bien. Mais depuis le début de la saison, ces changements en cours de match, de joueurs, c'est 8 buts et 7 passes décisives pour les entrants au jeu. Personne fait mieux. Sarri, Guardiola, Mourinho, personne fait mieux. Pochettino, personne ne fait mieux. Je crois qu'après, c'est Sarri avec 11 au total, buts et passes décisives. Mais voilà, l'impact qu'il a en cours de match sur ces rencontres-là d'Arsenal, pour l'instant, a été assez incroyable.
Ouais, parfois, tu peux penser que c'est un peu de chance, mais là, quand t'as des chiffres comme ça qui commencent
à être avec l'effectif qu'il a aussi, tu sais, avec l'effectif qu'il a aussi.
À la mi-temps, c'est ça, c'est la stat que j'essaie. Donc c'est plus simple de...
Voilà, c'est ça, c'est qu'ils n'ont jamais mené à la mi-temps.
Même pas à la mi-temps, donc c'est plus simple d'être bon dans la mi-temps avec des changements.
Et Julien, il faut peut-être rappeler pourquoi ce match, le match d'hier était important pour, comment dire, pour l'installation d'Emery dans la Première Ligue. C'est qu'il y avait quand même quelque chose d'assez original dans le parcours d'Arsenal depuis le début de la saison. C'est qu'il y avait eu les deux premières journées contre des cadors.
City et Chelsea.
Donc on pouvait considérer que les équipes étaient pas complètement prêtes et tout, mais les débuts de saison, c'est toujours un peu particulier. Et que dans la foulée, il y avait une grosse série de résultats, mais que c'était contre des équipes.
On va dire Liverpool quand même, un match
a priori, avant qu'arrive le match contre Liverpool, qui avait été de très bonne qualité. Où Arsenal, franchement, avait, en tout cas dans le jeu, assez souvent dominé. Ça avait fait match nul. Et il fallait donc quelque chose de référence. Et voilà, donc maintenant ils ont affronté leur quatrième cador. Il va rester maintenant Manchester United, on va dire, à affronter. Non, mais comme nous,
c'est
pas cador de cette année, quoi.
C'est après-demain.
Bah, c'est après-demain.
Voilà, c'est après-demain, Manchester United, voilà, à Old Trafford, donc on en sort un peu plus. Non, mais t'as tout à fait raison. Aubameyang, meilleur buteur de la première ligue, c'est 10 derniers tirs cadrés, 10 buts.
Ça, c'est énorme.
C'est très simple. À chaque fois qu'il cadre, il marque.
S'attendait à ce qu'il soit titulaire, il l'est pas, il entre, il marque.
Il marque et c'est le 7e français à atteindre la barre des 20 buts en première ligue avec Henri, Giroud, Pires, Viltord, Vieira, Anelka.
Il y en a un autre qui a marqué et qui a été aussi son but a été symbolique, c'est le but du 4-2 certes, mais c'est Torreira. Lui aussi, alors il a une saison ce Torreira. Il est magnifique ce Torreira aussi.
Ouais.
Quand je vois super, que PSG cherche des vues jouer comme terrain et qu'ils prennent pas un mec comme je comprends pas.
Tout à fait. 30 millions de la Samp pour Simone et les gens qui suivent la Serie A. Il avait déjà été très bon avec la Samp l'année dernière. C'est un jeune joueur qui a beaucoup, beaucoup d'avenir devant lui.
La Roma était sur lui. Après, au final, l'Arsenal est arrivé, a fait une offre supérieure. Mais moi, Torreira, j'ai commenté la Serie B en France avant de venir ici.
Pour l'équipe.
Sur l'équipe. Et c'est un joueur extraordinaire en Serie B. Et je n'ai parlé à certaines... qui travaillait dans le foot français, disait il y a un milieu intéressant, un Pescara.
Et ils t'ont dit, ouais, mais il n'a jamais joué en Ligue 1.
Ouais, peut-être. Voilà, choses comme ça. Mais c'est un joueur qu'on voyait.
C'est pas vrai, on t'a dit un truc comme ça. Mais non, arrête, Timoné, on va pas te croire.
On voyait en Serie B italien qu'il avait un talent incroyable.
Juste petite parenthèse également, Kuba sur le hashtag RMC Live, je rappelle le nom du premier ballon d'or féminin, Ada Egerberg. Je l'ai mal prononcé tout à l'heure. Voilà.
Ah, ça, c'est essentiel.
Voilà, la Lyonnaise. Bah oui, il faut bien de prononcer les bons noms des gens. On a évoqué un petit mot sur Liverpool et Everton également, mon Julien. Victoire 1-0 des Reds. Alors, il y a une grosse polémique suite à ce match. Alors, but dans le temps additionnel, en toute fin de match, d'Origi, un but gag. Alors, Pickford qui se trouve complètement sur cette action. Et alors, Jürgen Klopp qui célèbre ce but de façon effusive, un peu trop d'ailleurs. La FA a carrément ouvert une enquête. Marco Silva, le manager d'Everton, était furax après le match, après justement cette démonstration un petit peu trop excessive de la part de l'entraîneur de Liverpool. Ça a été tendu quand même pour Liverpool, ce match.
Ouais, ils ont pas été. En tout cas, moi, je les ai pas trouvés très bons. Encore une fois, dans la lignée de ce qu'on a vu cette saison au parc mercredi dernier, dans les matchs précédents aussi, où ils ont pas l'intensité qu'ils avaient la saison dernière, par exemple, où Mo Salah a pas le niveau qu'il avait la saison dernière, ou même défensivement, même s'ils ont une des meilleures défenses de Première Ligue avec City, notamment à domicile. Ils ont encaissé qu'un but cette saison à domicile en Première Ligue. Mais ils ont encaissé des occasions ce week-end contre Everton par exemple, et ils gagnent sur ce but effectivement, comme tu l'as dit, comique à la 96e de Divock Origi, qui avait plus joué en Première Ligue depuis 477 jours, mais qui marque son troisième but dans un derby de la Mersey depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Enfin bref, un truc de fou. Mais t'as raison, tout le monde ici ne parle que de Klopp, que de ce sprint qu'il a poussé pour aller au milieu du terrain.
Mais j'ai loupé quelque chose, Julien. Il y a rien de méchant dans ce qu'il a fait.
Alors lui-même, a dit après le match.
Sur le terrain, quoi.
Mais c'était fini, Julien.
Non, non, non.
Non, c'est fini.
Ah non,
c'est
après non, le but non, il y a eu l'engagement. Everton a attaqué, après Everton a même.
D'accord, je crois que c'était sifflé.
Ah ouais, ils ont une touche même sur le côté. Ils ont une demi-occasion presque. Enfin, tu vois, ils balancent le ballon sur la touche dans la surface. Non, le match n'est pas fini du tout.
Effectivement.
Non, voilà. Alors même lui a dit à la fin du match, je voulais pas courir, je voulais pas rentrer, mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Je suis désolé, je me suis excusé, etc. Je comprends que du côté d'Everton, il soit pas forcément très content non plus. C'est pas une manière de même un derby pareil aussi intense et aussi historique que celui-là. Tu peux avoir un petit peu de réserve et de respect pour ton adversaire. Personnellement, moi, c'est pas un truc qui me dérange beaucoup, mais
il a pas chambré.
Voilà, si ça avait été Mourinho qui avait fait ça contre City. On en aurait fait des tonnes et des tonnes et des tonnes.
Mais d'ailleurs, il va peut-être être sanctionné. Il a fait ouvrir une enquête, je crois. Il a jusqu'à jeudi pour répondre, non ?
Exactement, ouais. Donc on va voir ce qui va se passer. Beaucoup de gens en Angleterre pensent qu'il va prendre un avertissement, mais qu'il n'y aura rien de plus. Mais c'est vrai que bon, voilà.
Moi, je veux dire, l'attitude de l'adjoint qui regarde le banc d'Everton fixement. Pour moi, il me dérange plus que le club, mais qui célèbre avec ses mecs, quoi. Il jamais il veut chambrer Everton, quoi.
Alors c'est une victoire qui est très importante. Et
puis on avait aussi, tu te rappelles, à Chelsea.
Oui.
À Chelsea, on avait aussi l'assistante Sarri qui avait pareil.
Exact.
Voilà aussi, ouais.
Alors c'est une victoire qui est importante pour Liverpool, puisque City avait gagné face à Bournemouth 3-1, et du coup c'est statu quo, quoi. City en tête avec 2 points d'avance sur Liverpool.
Et qui?
City en tête avec 2 points d'avance sur Liverpool.
Et avant, il y avait quoi? C'était qui?
Bournemouth.
Ah non.
Ils ont tapé Bournemouth, non?
Non, je pensais que tu avais parlé d'une statue ou je sais pas quoi.
Une statue?
Ouais.
Non, statu quo. Oui.
Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Pardon.
Statu quo en tête, ouais.
Qui est ton cater de la semaine? Ton cador, quoi.
Le cador de la semaine, c'est Kepa. Aris Abalaga, je vais pas vous faire prononcer son nom de famille, mais on va l'appeler Kepa. Ouais, parce qu'il a été très bon dans les buts de Chelsea dans l'autre derby de dimanche contre Fulham, celui du sud-ouest de l'Angleterre, sud-ouest de Londres, pardon, que Chelsea a gagné 2-0, en ayant concédé quelques occasions quand même, mais. Ouais, c'est moins passionné, il y en a eu beaucoup moins d'ailleurs,
je pense que c'était 76e.
Oui, non, bien sûr, Chelsea Fulham.
Ouais, c'est vraiment un vrai derby. Ouais, voilà, tout à fait. C'était Claudio Ranieri qui revenait à Stamford Bridge, où il a jamais gagné depuis qu'il était plus entraîneur de Chelsea. Donc c'est pas forcément une très bonne chose pour lui de revenir au Bridge. Mais ouais, Kepa qui a été très solide et qui est un gardien très jeune et qui, à mon avis, encore une fois, un peu comme Torreira, a un très très bel avenir devant lui.
Très bien. Et victoire donc 2-0. Pedro et Loftus-Cheek qui ont marqué les deux buts. Et c'était le duel entre Sarri et Ranieri. Tu disais, en Italie, on parlait que de ça avant le match aussi.
Concernant la journée des Premières Ligues, c'était vraiment un peu plus l'affiche. Regardez en Italie, et aujourd'hui il y avait un papier sur chaque quotidienne, la grosse victoire de Sarri, mais le travail de Ranieri a été quand même apprécié, c'est-à-dire Fulham n'a pas été ridicule, c'est un peu les résumés très simples.
Ah, deux entraîneurs italiens en première ligue qui s'affrontent, oui, ça fait événement, tu vois, je sais pas, c'est un peu comme si demain tu regardes un match anglais, t'as Duprat contre René Girard, quoi, tu vois, c'est un...
Ah bah non.
On sait jamais, c'est pas arrivé, hein. Il y a deux entraîneurs français qui s'affrontent.
Il y a eu Wenger Puel,
c'est arrivé. Hein.
Bah voilà. Bah voilà, hein. Et on n'en a pas parlé tant que ça, finalement, nous.
Bon, si nous, on en a parlé.
À tort, peut-être.
Qui est Duprat, Ranieri, reste Duprat ou Sarri.
et en même temps, Simonet dit qu'en Italie, tous les quotidiens sportifs en ont parlé, mais nous, on en a qu'un ici. Donc, ouais, c'est un peu de notre faute aussi, peut-être, si on n'en parle pas.
Qui est ton bidon de la semaine, mon Julien?
Bah Mark Hughes, hein, qui s'est fait virer aujourd'hui de Southampton comme un malpropre.
Le nombre de fois qu'il s'est fait virer, Stoke City déjà.
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il s'est viré après un bon résultat, quoi.
Ouais, mais j'ai calculé qu'il a dû prendre environ 20 millions d'euros. Il a dû prendre 20 millions d'euros sur les limogeages qu'il a fait donc quand il s'est fait virer là à Southampton, à QPR, à Stoke. 20 millions d'euros, elle est belle quand même, l'histoire. Moi, je vais bien me faire me limoger.
Par rapport à Laurent Blanc, lui, il les a une seule fois.
S'il se fait souvent limoger, c'est qu'il trouve quelque chose à chaque fois.
Nous, le champion des indemnités, c'est Elie Bon.
C'est ça qui est incroyable.
Ouais!
Les meilleurs, c'est celui qui le trouve en place.
C'est quoi?
Les meilleurs dans toute cette histoire, c'est celui qui le trouve en place, son agent.
Ah, oui.
Il rebondit à chaque fois.
Mais c'est ses relations qui gèrent tous ces relations.
5 victoires sur ses 27 derniers matchs de Première Ligue. Je sais même pas comment il a fait pour durer aussi longtemps. Et on parle de Ralf Hasenhüttl, l'ancien entraîneur du RB Leipzig que Lorto connaît bien, pour le remplacer, qui a fait des très bonnes choses à Leipzig, d'autres choses un peu moins bonnes, mais ce sera intéressant de le voir en Première Ligue, parce que je pense vraiment qu'ils vont lui donner le job.
Ça peut avoir de l'étoffe, cette affaire-là, parce que le Bayern, et on parlera tout à l'heure du Bayern, mais on a renoncé à ce dossier-là parce que il considère que c'est un entraîneur qui a trop peu d'expérience avec les stars.
Bah oui, ils viennent de le constater avec Kovac.
En somme, oui.
Et alors donc Hugues est viré de Southampton. Sutton qui menait 2-0 face à Manchester United ce week-end, qui finalement a fait match nul de 2, ce qui est pas un mauvais résultat en soi. Non, Hugues saute derrière.
Au final,
ça.
Encore une brouille de plus entre Pogba et Mourinho.
Alors c'est vrai ou pas ça d'ailleurs, Julien?
Oui, un petit accrochage, mais finalement, hein, c'est comme un début de la saison, quoi. À chaque fois,
semaine normale. Quoi.
Voilà, c'est semaine normale où il s'invective un petit peu, ça crie un petit peu. Voilà, c'est ça peut pas marcher, c'est pas possible. Hein. C'est une situation tellement compliquée, et pas seulement entre Pogba et Mourinho, mais quand tu regardes les chiffres de United cette saison, par exemple, ne serait-ce que, on a parlé souvent avec Daniel et Pierrot de l'attitude des joueurs de cette équipe de Manchester United. Mm. Par rapport à la distance qu'ils couvrent pour chaque match, ils sont 16e sur 20 équipes de première ligue. Sur les sprints par match, ils sont 18e sur 20. 18e sur 20! Tu vois, au niveau des sprints par match de l'équipe
globale,
en général.
Quoi, bien sûr.
Voilà, et de tous les adversaires, ils ont toujours couru moins que l'adversaire et ils ont toujours sprinté moins que leur adversaire jusqu'à présent en première ligue. À un moment, c'est plus difficile forcément pour gagner des matchs. Ils concèdent beaucoup plus d'occasions que l'année dernière. L'année dernière, ils ont concédé 28 buts dans toute la saison. Ils en sont déjà à 23 en 14 matchs de championnat cette saison. C'est incroyable.
Un tout petit mot, Julien, également sur la Ligue des Nations. Il y a eu le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Nations aujourd'hui, c'était à Dublin. Alors, demi-finale le 5 juin au Stade du Dragon à Porto, Portugal-Suisse. Et l'Angleterre jouera face aux Pays-Bas le lendemain à Guimarães. Et Southgate qui a dit, et il a raison, ce sera notre deuxième demi-finale cette année. Et bah ouais, hein. Ton pote Southgate.
Ouais. Mon pote Southgate, je suis toujours pas convaincu. Hein. Voilà, il y a eu des très bonnes choses cette année. Non, mais sérieusement, c'est une belle année 2018 pour lui et pour son groupe. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de lacunes tactiquement, notamment, mais voilà, ils y sont, c'est très bien. Je pense qu'ils auraient voulu la Suisse. Ils se sont retrouvés contre une équipe des Pays-Bas qui est en train de relever la tête de manière assez impressionnante, donc ce sera un match très intéressant, je pense, et voilà, ils veulent la jouer à fond cette Ligue des Nations. Ils ont raison, hein. Ils ont raison parce que c'est un groupe jeune qui a besoin d'expérience. Voilà, exactement. En plus, tu vois, et puis ça fera un trophée s'ils arrivent à le gagner, sur lequel ils pourront bâtir après pour l'Euro 2020.
Voilà, la finale ce sera le 9 juin, ce sera à Porto également. La petite finale sera le même jour à Guimarães. Nous, on file en Allemagne dans quelques instants avec toi, mon Lorto. Tu vas nous parler du Bayern justement.
Entre autres.
Tu vas nous parler de Robben aussi, de Dortmund. Bref,
ça bouge en Allemagne.
Au bidon aussi, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live si vous voulez réagir, bien entendu, sur l'application Direct Studio avec Pierre Ducourau, avec Daniel Riolo et avec nos drôles de dames. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames, Simone Rovera, Julien Laurence, David Lortolari. 13e journée de Bundesliga ce week-end. Dortmund a battu Fribourg 2-0. Le Bayern a battu le Werder 2-1. Gladbach, le favori pour le titre de Lortolari, c'était la semaine dernière, a perdu 2-0 à Leipzig.
Ils sont deuxième.
Ouais, d'accord, ok. Et Hoffenheim et Schalke nous le firent, on fait match nul, un but partout. On a toujours Dortmund en tête devant Gladbach.
Ils sont deuxième.
Et le Bayern, lui, ils sont où? Ils sont quatrième, mon pote.
Ils ont remonté d'une place.
Ouais, ils ont 9 points de retard quand même sur Dortmund. Jingle, Lortolari.
Cinquième, les Chinois, 50.100. La France est donc médaillée d'argent de cette finale, messieurs, de trampoline synchronisé. Très bonne nouvelle pour le moral de la gym française.
Ça existe.
Oui, non, mais ça existe. La preuve. Bon.
Et on
la
est
preuve.
Fort.
La preuve. La preuve.
Enfin, les Français sont forts.
Tiens, comment l'annonce du Ballon d'Or a été perçue en Allemagne? On en parle de ça ou pas?
Oui, on en parle. Alors, on va clairement. J'ai fait un petit tour là, les dernières minutes sur ce qui se disait. On n'en fait clairement pas la une. Il faut chercher un peu sur les sites, un peu vers le bas des pages. C'est un peu une. Comment on pourrait dire? Presque une lassitude. Modric, ok, c'est normal. What else? C'est-à-dire qu'on passe vite à autre chose et il n'y a pas d'analyse très, très approfondie sur l'affaire.
Et dis-le nous en allemand, what else?
Ah, ça n'existe pas.
Non.
Bon, ok, pardon. Non, mais c'est non parce que ça m'aurait, voilà, ça nous aurait appris quelque chose. C'est pas grave.
Alors,
quoi d'autre?
Hein?
Quoi d'autre en français? Ouais, mais ça n'existe pas.
Oui, si, mais c'est des formules qui sont plus compliquées.
Comment on dit en italien?
Oh la vache, ouais.
Ragazzi, alla romana.
Je ne m'attendais pas.
Ça veut dire autre chose, ça, non?
Non, plus ou moins, mais dans une.
Ah merde, comment tu veux dire?
Dans une famille
romaine, quoi, tu dois dire pour de vrai? Que altro?
Que altro, si, mais non, il n'y a pas non, une construit,
c'est pas ça. C'est une expression, ça ne gueule pas de la même façon. Quoi. Ouais.
Voilà, c'est aussi ça, les drôles d'hommes.
Tu veux empiéter sur mon temps de parole, Nicolas Villas?
Non, vas-y. Avis tranché qui concerne le Bayern Munich.
Comment on dit en portugais? Quoi d'autre?
Alors là, c'est une bonne question.
Ça existe qu'en français et en anglais.
Mais c'est pas latin comme expression. Enfin, pas.
Non, mais c'est ça. Si, quoi d'autre, c'est un peu français.
Les Français, c'est un peu mélangé. Il n'y a pas trop de.
On parle de stars ce soir avec le Ballon d'Or, Modric et autres. Et moi, j'ai une star à vous proposer ce soir, messieurs. On en parle beaucoup, à son corps défendant peut-être, parce que lui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. C'est Oliver Kahn, futur homme fort du Bayern. Et pour moi, c'est la vie tranchée que je voulais développer ce soir. C'est l'homme fort idéal pour la suite, pour l'avenir du Bayern dans les prochaines années. Je ne veux pas faire de cours d'histoire, mais l'after est quand même l'occasion de faire un peu de mise en perspective. Et si on se souvient bien, parmi les plus anciens peut-être de nos auditeurs, quand Uli Hoeneß s'empare, parce que quelque part c'est le mot aussi, s'empare du Bayern il y a X et X années dans les années 70, alors que joueur, il vient d'arrêter sa carrière, on ne s'attend pas du tout à ce que ça fonctionne. Et Uli Hoeneß, donc ancien joueur, illustre, très bon, a fait sa carrière derrière, la carrière qu'on connaît d'abord comme manager, puis finalement comme président au Bayern avec énormément de succès. On s'appuie sur donc un ancien très fort joueur, un homme de terrain, et un homme qui a incarné la tradition d'un club comme le Bayern. Et je pense qu'Oliver Kahn, qui est pressenti pour prendre la suite, et je vais te donner dans quelques instants quelques éléments de calendrier, pour prendre la suite après Hoeneß et Rummenigge, est l'homme idéal. Parce que il cumule finalement les qualités. La tradition dans ce club-là où il a battu tous les records, où il a été quasi ballon d'or, puisqu'on parle du ballon d'or ce soir, où il a été le meilleur gardien, l'un des tout meilleurs en tout cas sur la planète football. Ça, c'est la légitimité sportive qui est indispensable dans un club comme ça. Vous n'êtes pas respecté. Et on le voit d'ailleurs, même avec des gars qui ont un énorme palmarès, comme Salihamidzic aujourd'hui, et comme quelques autres, vous n'êtes pas respecté si vous n'êtes pas un cador de cador. Donc ça, c'est une première chose. Oliver Kahn respecte cette...
Et Salihamidzic, lui, il est respecté.
Pas tellement. Ah alors qu'il a gagné 5 ou 6 fois le titre de champion. Mais bon, sur
son... Mais il n'y a pas que ça, tu peux avoir un joueur.
Donc il y a cet argument-là. Il y a ensuite le côté autorité naturelle. Et Oliver Kahn, on le sait, et vous avez toutes les images en tête.
Il est charismatique.
Il fout les jetons. On le limite un peu trop.
Il n'a pas eu à se forcer.
Il te fout les jetons. Hein.
Et puis, et alors là, c'est peut-être la petite...
Dis bonjour, tu sors tes papiers.
Non, ça c'est toi quand tu dis bonjour. Papier, bitte.
Voilà.
Ah, voilà. Formule en allemand.
Ça y est,
en
allemand.
Oliver Kahn, alors ce qu'on attend de lui maintenant, c'est qu'il accumule encore dans les prochains mois, puisqu'il pourrait prendre la suite peut-être en 2019, c'est ce que certains souhaiteraient, 2021 sans doute, je vais y venir dans un instant. Il a besoin d'expérience dans la gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, il a beaucoup de responsabilités à la télévision, il apparaît dans des publicités, il est consultant très respecté, et je le trouve très bon, moi, à titre personnel, sur ses analyses du football en général à la télévision publique allemande. Et il a aussi des responsabilités diverses ici ou là, donc je pense que ce critère-là aussi, il peut rapidement le remplir. Quelque part, pour résumer ce que je viens de dire, ça nous ramènerait 40 ans en arrière et on aurait l'impression, et c'est peut-être ce que le Bayern a envie de faire aussi, on aurait l'impression de revivre le saut dans le vide qu'on a vécu dans les années 70 lorsqu'Uli Hoeneß s'est emparé du club. Donc pour moi, un homme idéal. Alors, pour succéder à qui? C'est ça la vraie question, parce que en fait, aujourd'hui, il y a donc une direction bicéphale. Uli Hoeneß, président du conseil de surveillance, Aufsichtsrat Vorsitzender.
Quoi?
Et hein? Karl-Heinz Rummenigge. Oui, c'est un nom allemand.
C'est une russe,
président du conseil de surveillance, ouais. Et Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire. C'est Rummenigge, en fait, qui a les responsabilités aujourd'hui au Bayern. Et si on a l'impression que Uli Hoeneß a tellement de pouvoir, c'est aussi parce qu'il s'implique comme s'il était directeur sportif. On parlait de Salihamidzic tout à l'heure. Celui-ci est très en retrait et n'a pour l'instant pas du tout fait ses preuves. Et c'est pour ça qu'on voit sans arrêt Uli Hoeneß aujourd'hui.
Robben et Ribéry disputaient leur dernière saison. En fait, il fait la politique sportive aussi.
Il fait la pluie et le beau temps. Mais donc, en fait, ce qui peut se passer, c'est que Rummenigge, dont le contrat s'arrête le 31 décembre 2019, pourrait prendre un peu de recul, prendre la place de Hoeneß peut-être à ce moment-là pour 2 ans. C'est ce qu'on souhaite au Bayern. Rummenigge n'a pas encore confirmé. Et donc, être remplacé lui-même au poste de président, peut-être par Oliver Kahn tout de suite dès 2019, ou bien au plus tard en 2021. Et c'est là où on en vient au terrain, et c'est ce qui intéresse peut-être le plus nos auditeurs et nos téléspectateurs. Pendant cette période-là, 2018, donc saison actuelle jusqu'en 2021, le Bayern veut terminer cette espèce de transition qu'il a commencé en faisant venir des jeunes. Le prochain exemple, c'est ce jeune de 18 ans qui vient du Canada, dont on ne sait pas du tout ce qu'il vaut, Alphonso Davies, mais qui va arriver cet hiver. Et le Bayern a mis en route cette transition qu'il veut amener jusqu'en 2019, 2021.
Alors, c'est vrai que c'est le cas de le dire qu'il y a une page qui se tourne au Bayern. Oui. Il y a une annonce qui a été faite ce week-end aussi. Robben a déclaré que c'était sa dernière saison au Bayern Munich.
Et alors là, c'est intéressant parce que Robben, qui est quand même très orgueilleux, qui a toujours une haute estime de son niveau de jeu,
a affirmé de lui-même sans qu'on le force, sauf si j'ai oublié des chapitres, peut-être qu'il y a des choses en coulisses qui se disent aussi dans les couloirs au Bayern, mais je veux dire entre les la direction et les joueurs.
Mais c'est justement pour pas qu'on lui dise.
Oui, Robin,
il préférait le dire en premier.
C'est quand même rare que les anciens, que les grands joueurs comme lui réussissent à avoir.
Ouais, mais peut-être qu'il sentait que sinon on allait lui dire. C'est écoute, bien qu'il c'est terminé. Donc,
sa phrase pour informer ceux qui ne l'auraient pas lu ou entendu, sa phrase c'est j'ai fait 10 ans au Bayern, une décennie c'est bien. Sous-entendu, je peux m'arrêter maintenant. Alors. On pense que Robben pourrait faire une année supplémentaire, peut-être au PSV Eindhoven ou dans son club d'origine qui doit être Groningen en néerlandais. Mais en tout cas pour le Bayern, ça va être terminé. Donc en 2019, Robben s'arrête. Ribéry devrait suivre, mais celui-ci a encore envie de jouer.
Au niveau lucidité, ça va être un peu plus compliqué.
Il a encore envie de jouer en plus.
Il devrait suivre à Groningen.
Il devrait suivre pour s'arrêter en fin de saison. Mais je veux pas parler ni à la place de Franck, ni à la place de son entourage. Pour l'instant, ça n'a pas été officialisé.
Ouais, bien sûr.
En tout cas, tu as raison, Nico. C'est clairement une transition importante parce que pour l'un, 10 ans au Bayern, pour l'autre, 12 ans au Bayern, ça va être un vrai changement pour le club.
Ribéry?
12 ans.
On va en parler, là.
Okay. 12 ans qu'il est là, ouais.
Paco Alcácer également, tu voulais en parler parce qu'il a battu un record. Alors, lui, c'est extraordinaire, lui.
Okay. Alors, Paco Alcácer fait la une du Bild de ce dimanche. Phénomène Paco. J'ai pas besoin de traduire. Phénomène Paco.
Phénomène. Voilà. Phénomène.
C'est
Paco.
On est obligé, on peut pas ne pas parler de Paco Alcácer parce que
il maîtrise un peu l'accent allemand ou pas.
281 minutes.
281 minutes.
Comment tu le prononces, ouais.
Phénomène.
Phénomène.
Phénomène. On ne doit pas être un peu plus énervé
c'est quoi,
par l'allemand.
C'est 8
matchs.
Phénomène.
Non, t'as pas la syllabe tonique au bon endroit.
Phénomène.
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 Phénomène, Paco.
Paco. Alors, juste quelques chiffres pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que c'est incroyable et ça va faire encore une fois plaisir à Fred Hermel qui nous le vantait depuis l'Espagne.
C'est portugais quand on parle portugais, si on est tout le temps énervé. Non, on est très énervé quand on parle.
Ah oh, tu trouves toi?
Ah c'est ça fait genre un peu énervé et tout genre.
Non, mais parce que ça joue beaucoup aussi la tonique, je trouve moi. La syllabe tonique qui fait énormément.
Oui mais ça donne l'impression qu'on est super vénère.
Phénomène.
Limite avec les trois insultes qui partent à 2000 quoi.
Écoutez David.
Ouais, mais c'est non, mais ça
va perdre, ça va plaire à Fred alors.
Ouais parce que Paco 9e but de la saison comme remplaçant. C'est un record sur la totalité des saisons en Bundesliga. C'est-à-dire que personne n'a marqué plus de 9 buts sur la totalité d'une saison. Alors que, comme tu le disais, on n'a fait que 13 journées. C'est Nils Petersen et Fiorel Ganea, qui étaient au début des années 2000 un joueur de Bundesliga, qui détenaient ce record. Il a été égalé ce week-end par Paco Alcácer. Cet homme marque un but toutes les 28 minutes.
C'est un peu incroyable. J'ai pas compris le record. Personne n'a marqué
joker,
plus de 9 buts.
9 buts comme remplaçant.
Ah,
sur
remplaçant.
D'accord.
Saison, d'accord. Voilà. Ok, pardon.
Et alors, juste quand même, pour rendre justice et pour être honnête par rapport à ce qui se passe sur le terrain, deux choses. Paco Alcácer rentre après que Mario Götze a joué à sa place. Donc, il joue pendant 60-70 minutes. C'est Götze qui joue à ce poste-là. Götze sort et Paco rentre
mais
et ramasse les
fruits. Mais pourquoi Favre a déjà remarqué qu'Alcácer n'était pas capable de démarrer un match? Comment ça se passe?
Ça lui est arrivé de démarrer un match. Il a marqué aussi, mais
il était meilleur quand il rentrait. C'est étonnant.
C'est comme une fusée à deux étages. Et alors, il profite, en fait, c'était le deuxième point que je voulais donner très vite, il profite du fait que Jadon Sancho, qui est le phénomène dont Julien Laurence vous avait aussi parlé, Jadon Sancho est le joueur qui fait la différence en un contre un, parce que bien sûr, aujourd'hui, Dortmund a pris de l'avance, 9 points maintenant, non, pardon, 7 points d'avance sur le deuxième en Bundesliga.
On va y croire au titre, hein, même si Favre voulait pas.
Bon, forcément. Et du coup, les défenses ont tendance à être de plus en plus resserrées, jouer de plus en plus bas contre Dortmund en Bundesliga, et on a besoin d'un Jadon Sancho.
Ils font pas ça en Bundesliga quand même.
Si, face au, bah si, on s'adapte quand même malgré tout.
Je pensais qu'il y avait qu'en France où tu avais des blocs.
Mais le RB Leipzig la saison dernière, c'est pareil. Les clubs ont fini par s'adapter, et derrière, il faut trouver un plan B. Mais là, le plan B, en l'occurrence, c'est Jadon Sancho passeur, Paco Alcácer buteur. Et vraiment, c'est la façon actuelle de déverrouiller les défenses. Paco.
Non, mais est-ce que ça peut devenir un problème quand le mec qui est ton remplaçant marque à chaque fois, il va vouloir être titulaire à un moment donné, ce garçon?
C'est arrivé à Fribourg avec Nils Petersen, mais le gars est très sage et très respectueux des hiérarchies.
Ça se passe bien, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu rentres, tu marques.
Pour l'instant, ça se passe bien.
À un moment donné, tu dis, j'imagine que t'as fait le truc, à un moment donné.
Peut-être aussi parce
que je joue d'entrée, quoi.
Peut-être aussi parce qu'à Dortmund, il y a énormément de solutions offensives, et du coup, Alcácer c'est une solution parmi d'autres.
Ouais. David. Das cadre de la semaine.
Vedad Ibisevic, vous vous souvenez peut-être de ce nom?
Ah oui! Évidemment.
Comment? 300e match de Bundesliga, 116 buts, 6 buts cette saison pour un homme qui a passé.
117 même, moi j'ai.
Bon. J'ai mis 115 moi dans d'autres sources.
Ah bah tu vois.
On fait pas bien notre boulot. Ouais. Enfin bref,
si,
116.
Si, mais après t'as des ballons déviés, des conneries, ils sont pas tous d'accord.
C'est alors juste un chiffre. Je sais que Daniel déteste les stats, mais celle-là elle est marrante. C'est le premier joueur à marquer au moins 33 buts dans 3 clubs différents en Allemagne en l'occurrence.
Stuttgart, donc il y a le Hertha,
Stuttgart, le Hertha et Hoffenheim. Okay. Et pour un attaquant, 33 buts dans 3 clubs différents, c'est pas mal.
Bah déjà, plus de 110 buts en 300 matchs, c'est pas mal déjà aussi.
C'est une légende.
Il n'a pas joué dans des gros gros clubs. Donc.
Ouais, c'est une légende en Bundesliga, et j'ai pas peur de le dire. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a été remplacé ce week-end, après avoir marqué donc un de ses buts, par Pascal Koepke, qui est le fils
d'Andreas
Koepke. Ah ouais. Première apparition en Bundesliga pour Pascal Koepke, qui joue en attaque.
Il est comme son père.
Moi, j'aurais aimé marquer au moins 3 buts dans 3 clubs différents.
Un déjà, non?
Non, mais là, ça
marque combien de buts dans ta carrière?
Ça, je l'ai fait quand même. De quoi?
Combien t'as mis de buts dans ta carrière?
Je sais pas, une dizaine, quoi. Donc, oui, j'ai marqué dans les clubs où je suis passé, mais j'ai
but à Laval.
Ah, Laval, je
sais. Ah, il y a Derby.
Ouais, Derby, oui.
Ah, ouais. À Laval, t'as marqué?
Non, à Laval, je suis pas sûr.
Tu vois?
Ouais.
Donc, t'as pas marqué partout?
Ouais, non.
Mais c'est pas grave, hein.
J'ai pas dit que j'avais marqué partout, j'ai
dit. Attends, c'est parce qu'on te demandait.
Exactement.
Mais enfin, alors, question importante, parce que Daniel va te la poser. Est-ce que t'étais mieux payé que les mecs qui marquaient des buts dans ton équipe?
Ah non. Alors. Sûr que non. Non, non, bizarre.
Il y avait une prime.
Pourquoi?
Arthur Robert me dit, t'as pas marqué à Cavala.
Si. Arthur Robert dit des bêtises.
C'est pas question. Sur le bon site.
Eh, Bob.
Das Bidon. Oui, alors tu me titillais tout à l'heure sur le Borussia Mönchengladbach qui a certes perdu, mais qui est toujours mon favori pour le titre et qui est deuxième de cette fameuse Bundesliga. Alors, j'ai choisi un joueur parmi d'autres, c'est Michael Lang, qui joue aussi avec l'équipe de Suisse, qui a souffert le martyr face au chapeau 1 Timo Werner ce week-end. Michael Lang.
Michael Lang.
Oui, Michael Lang.
Michael?
Oui.
Michael, non?
Non, mais on dit Michael en Suisse, enfin en helvète, en allemand.
Michael Lang.
Michael Lang. Michael, si vous préférez, non, si vous comprenez mieux. En fait, il était défenseur droit ce week-end avec Gladbach.
Jacques
et
Michel.
Timo Werner, quand même, bon, vous pourrez respecter Timo Werner, mon chapeau 1. Timo Werner.
C'est lui qui lui a mis la misère, c'est
que
ça.
Devient-il?
C'est lui qui lui a mis la misère. 2 buts ce week-end avec le RB Leipzig pour cette victoire importante donc contre Gladbach. Et alors, ce qui est amusant, et j'en terminerai avec les chiffres parce que je vais finir par vous saouler, Timo Werner, 8e but cette saison, tous ont été inscrits à l'occasion de doubler. 2 plus 2 plus 2 plus
2. Donc 6 doublés. 3-2, quoi.
Non, pas 6 doublés. 4.
12, t'as dit.
8 buts.
8. Ah, t'as 8 pas dit 12 buts.
4 doublés.
Non, pardon, autant pour moi.
4 fois 2, 8.
J'ai compris du 12 buts. Werner, chapeau. Ah,
bah. Même moi, je sais.
Voilà, 4 fois 2, 8.
Les mathématiques sont différentes, non?
C'est presque.
Parce que vous comptez bien, oui, Jean-Pierre.
C'est pronto.
T'inquiète pas que Pierre, depuis qu'il est agent, il sait compter.
Ah bah là là!
Juste une info importante.
Je savais compter avant.
Info importante sur l'infirmerie. Kingsley Coman est revenu avec le Bayern. Et on peut donc espérer que ça soit un argument nouveau, maintenant que sa blessure est terminée, pour l'équipe de France aussi.
Je vous rappelle l'information de cette soirée également. Luka Modric est Ballon d'Or. Il est devant Cristiano Ronaldo et Griezmann. Mbappé est cinquième, hein, si je dis pas de conneries.
Quatrième, non?
Quatrième, pardon. J'ai dit une connerie.
Donc il dit des conneries.
Et Kylian Mbappé qui s'est exprimé il y a quelques instants aussi, qui trouve finalement que l'élection de Luka Modric elle est plutôt logique. On l'écoute, c'est au micro de Jordan.
Je pense qu'il me manque de la régularité. Je pense que j'en ai beaucoup gagné. Et après c'est normal, je peux pas tout acquérir en 2 ans, sinon le football serait trop facile. Mais voilà, je pense que Modric est un candidat qui montre aussi, qui donne une leçon à tous les footballeurs, comme quoi lorsque vous privilégiez le collectif, vous pouvez être récompensé individuellement, et c'est ce qu'il fait sur le terrain. Donc voilà, il est un exemple pour beaucoup de footballeurs et pour moi y compris.
Voilà, c'était donc la réaction de Kylian Mbappé à l'élection du Ballon d'Or, qui est donc Luka Modric. Je vous rappelle qu'on va vous faire gagner un cadeau, comme tous les jours là pendant 3 semaines. Hein. Vous envoyez Noël au 7-32-16 et à la fin de cet after, on vous donnera, voilà, on va tirer au sort quelqu'un.
Non, est-ce qu'on t'a demandé de secouer la boîte?
Non, mais j'aime bien, ça rend bien.
Ah,
bien. Ça fait de la lumière et tout à la télé. Sur RMC Sport News, bien sûr. Dans quelques instants, les informations d'Italie avec toi, mon Simonet.
Ouais.
Si
ouais. J'ai un cadeau aussi.
Ah oui?
Non. J'ai vu un cadeau, tu me donnes un cadeau.
Tu as dit j'ai un cadeau aussi.
C'était un question.
Tu envoies à Noël au 32-16.
Comment c'est dit chez cadeau en italien?
Regalo.
Ah, comment en espagnol?
Regalo.
Regalo.
Cadeau.
Regalo. Cadeau au 32-16, ok.
Non, Noël.
Oh le mec. Envoie un regalo, tiens, vas-y. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, Julien Laurence est là, Simone Rovera. Mais qu'est-ce qui vous fait marrer, enfin, les gars, un peu de sérieux. 14e journée de Serie A ce week-end. Victoire 3-0 de la Juve à Florence, 2-2 entre la Roma et l'Inter. Milan a battu Parme 2-1, 1 partout entre Chievo et la Lazio. Et c'était le match du soir. Le Napoli s'est imposé à Bergame face à l'Atalanta, 2-1, Simone.
Victoire très importante de Carlo Ancelotti. J'ai dit de Carlo Ancelotti parce que ça arrive dans les dernières minutes avec un changement important de Ancelotti qui relance Milik après qui a eu un début de saison compliqué, devait être lui le titulaire. Après il était, on peut dire, remplacé dans la hiérarchie des attaquants par Mertens. Et là c'est Milik qui décide ces matchs très tendus face à l'Atalanta, c'est toujours compliqué. Et les gros mérites de ce, si ça a été un beau match, faut les donner quand même à l'Atalanta qui a tout fait pour gagner ces matchs. Vraiment, l'équipe de Gasperini est extraordinaire après un début de saison compliqué. Et en allant chercher la victoire.
Ça va être un jingle.
Je l'ai mis, quoi.
Le son.
Je sais. Et comme elle cherchait trop la victoire, elle est.
Parti en italien, le mec, en plus.
Je cherche de t'expliquer les choses. C'est un match important. Donc, il faut bien dire. L'Atalanta a tout fait pour gagner. Elle a laissé des espaces. Et donc, Naples a trouvé la faille.
Elle s'est fait niquer. Mais c'est bien. Ok.
Il cherchait une formule.
C'est génial. C'est génial.
La traduction
est attaquée.
J'ai oublié de te demander. Comment l'annonce du Ballon d'Or a été perçue en Italie? On rappelle Luca Modric.
C'était attendu, on savait. C'est passé la vague, on peut dire.
Italie, le Ballon d'Or dès mi-octobre, ils sont au courant.
Ouais.
Ouais.
Ils savent toujours.
C'est vrai?
Je sais pas comment ils se démerdent, mais ils savent toujours avant.
La vague, on peut dire, de peur, parce qu'il avait vraiment pas peur, mais c'était presque régé sur le fait qu'il avait l'idée de voir Varane deuxième, qui était sorti il y a un certain moment. Ça passait, je trouve que c'était pourquoi une réaction très forte à l'Italie. On considérait que Varane, c'était un peu étrange de les trouver dans une top 3.
Ah oui.
Parce que.
Et pourquoi lui spécialement?
Parce que c'est une pays qui, dans les passés, t'as eu Baresi, Maldini qui ont jamais gagné un ballon d'or. Tu te retrouves avec une Varane deuxième, ça fait un peu étrange. Après, c'est l'année où les derniers Italiens qui gagnent.
T'as eu un défenseur qui l'a gagné, Italien, quand même, non?
Pierre Ducrot considère que Varane peut discuter à la même table que Maldini, Baresi.
Non.
Et Bergoglio.
Non, mais par contre.
N'ayons peur de rien.
Est-ce que Cannavaro peut s'asseoir à la même table?
Non, je pense que c'était un
que Maldini et Baresi.
Ah oui, Cannavaro, oui, mais pas Varane, excuse-moi.
Oh, ça se discute à la même table que Baresi et Maldini, ça se discute aussi. Hein.
Ah oui, oui, moi je pense.
Cannavaro, moi je dis
là,
pas comme
ça. C'est une vieille histoire, je vais pas la rouvrir. Je pense que.
Oui, la preuve que c'est pas si évident que ça. Ça fait débat.
Le caractère, c'est important, il a raison.
Non, il avait un caractère qui représentait énormément, capitaine.
Je précise que j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. On parle de s'asseoir à la table, comme tu dis, de Baresi et Maldini.
Ça avait fait beaucoup de balles et la une de tout le sport qui disait c'est qui Varane à un certain moment quand semblait que Varane était dans les top 3 et pas Ronaldo.
La tradition
donc,
des défenseurs italiens, Nesta, Cannavaro et plus anciennement Maldini.
La tradition c'est bien aujourd'hui, il n'y a pas un défenseur italien dans les
équipes. Varane a 25 ans,
aujourd'hui t'as pas des Italiens. Ils sont un peu mal placés pour critiquer aujourd'hui.
Non, il disait juste que ce gars-là ne pouvait pas s'asseoir à cette table-là, c'est pas pour parler du présent.
Et bon. Donc, l'Italie, j'ai dit que.
C'est nous qui avons. Daniel, on change pas les propos. Ils n'ont pas parlé de la table de Maldini et Baresi.
Il y avait beaucoup de surprises quand on a cru, à un certain moment, que Varane pouvait être
sur le podium.
Et dans toutes les analyses qu'il y avait en Italie, il y avait un gros parti des consultants qui étaient pro Griezmann, quand même. Mm-hmm. C'est-à-dire, on voyait Griezmann dans les top 3 presque obligatoires. Mais l'idée de voir Varane, quand tu dis, Baresi l'a jamais gagné, Maldini était. Je pense en fois dans les top 3 ou 2, mais il n'y avait jamais allé plus loin. Tu t'es dit, si eux ne l'ont pas gagné, mais il ne faut pas faire de comparaison avec les ballons d'or d'aujourd'hui avec celui du passé.
Ça dépend qui t'as devant toi aussi à un moment donné. Ça joue aussi. Quoi.
Voilà.
Alors, Luka Modric, ballon d'or qui était annoncé à l'Inter il y a encore quelques semaines d'ailleurs. L'Inter qui a fait match nul 2-2. Encore aujourd'hui
Pour l'avenir, pour la fin de saison, il y a plusieurs journalistes, quand même sources très proches de l'Inter, qui considèrent que c'est. Pas une priorité, mais quelque chose de très très proche. Je vais dire, c'est quelque chose de très proche à la fin de la saison.
C'était l'un des chocs du week-end également, c'était hier. Roma-Inter 2-2. Alors, c'est pas forcément un bon résultat pour l'Inter, parce que comme le Napoli a gagné, ils reprennent la deuxième place.
C'est pas un bon résultat pour personne au final, parce que la Roma avait besoin de se rassurer. Oui, c'est vrai, elle perd pas, elle arrive à rattraper deux fois les scores. Mais c'est une Roma qui encore est très très loin du top du classement. La Roma a 20 points, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Ouais.
La Juve a 40. C'est énorme si on pense.
Même si t'enlèves la Juve, c'est par rapport aux autres surtout.
T'as 12 points de retard sur Napoli, t'as 9 de retard sur l'Inter, et quand même 5 sur un Milan dont je veux parler parce qu'à mon avis Gattuso est en train de faire des choses extraordinaires.
Alors ce sera ton cadeau du week-end d'ailleurs, Milan et Gattuso.
Gattuso, et à côté de lui je parle aussi de Bakayoko, qui dans les dernières semaines est en train de s'améliorer beaucoup, de recueillir aussi des récompenses individuelles petites, bien sûr, on parle de Ballon d'Or ce soir, mais sur les trois derniers matchs de Milan, deux fois a été nommé meilleur joueur par les supporters de Milan.
C'est bien,
C'est bien.
C'est quelque chose.
Non, mais t'as raison de le dire parce que c'est pour un joueur, c'est très important.
Je vais même vous lire Gattuso qui parle de Tiemoue Bakayoko. Ma plus grande surprise est de voir Tiemoue Bakayoko jouer comme il le fait en ce moment. À son arrivée, il avait l'habitude de courir tout droit. Maintenant, vous pouvez voir que 70% du temps, il court pour couvrir les espaces horizontalement. Il a beaucoup progressé sur le plan tactique. Plus loin, il déclare: aujourd'hui, on dirait qu'il joue comme Marcel Desailly. Je l'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Quand je vois Bakayoko, je vois un joueur avec les mêmes caractéristiques.
Il a eu des débuts, quand même, dans le discours.
Dans l'évolution, il y a un mérite énorme de Gattuso parce qu'il a pris un joueur qui n'était pas prêt au foot italien. Je ne veux pas dire c'est le plus compliqué du monde, mais il faut s'adapter.
On va parler dans
quelques secondes aussi de Cristiano qui écrase tous les records. Cristiano est resté muet pour les trois premiers matchs joués en Serie A. Il frappait de toutes les positions, n'arrivait pas à cadrer, ne se trouvait pas bien avec ses coéquipiers encore. Il fallait du temps pour s'adapter. Donc imaginez encore pour un milieu de terrain qui arrive dans une équipe qui avait une autre situation tactique en place. Après, aujourd'hui, sur les 7 derniers matchs, Bakayoko, il joue 7 fois à 90 minutes. C'est parce qu'il y a plusieurs blessés. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement un choix par défaut. C'est devenu un choix important pour Gennaro Gattuso, qui au début de la saison disait, il n'arrive pas à faire des bons choix, même à passer du ballon. C'est-à-dire, les changements étaient énormes.
Julien, t'es étonné par ça, par ces déclats de Gattuso?
Sur Bakayoko?
Ouais.
C'est compliqué, c'était très compliqué pour lui la saison dernière à Chelsea.
Je pense que Gattuso, il a voulu réparer un petit peu. Il s'est dit, j'ai été très dur la dernière fois, donc maintenant je vais le cirer. Oui.
Il est prêté par Chelsea à Milan, c'est ça hein.
Il est prêté pour deux saisons derrière.
Vas-y Julien.
Je pense que ça fonctionnait pour lui à Monaco dans un certain contexte avec un certain environnement et qu'il s'est perdu à Chelsea et que maintenant il va avoir à faire beaucoup de travail pour revenir au niveau qu'il avait à Monaco. Mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à qui il est arrivé de faire des très bonnes saisons
une année et notamment à Monaco en plus dans cette équipe là dans l'équipe dont on parle. Il y en a un paquet qui rejoueront jamais comme ils ont joué cette année là. Hein.
Ouais, non, mais c'est sûr, t'as raison. Ça fonctionnait pour eux dans un certain environnement et dans un contexte avec un entraîneur.
Il était un peu blessé, c'est vrai. Mais bon. Non, mais ça arrive hein, parfois. Les mecs, une année, ils sont bons et puis.
Bon, laissons-lui la chance, quoi. Peut-être qu'il va être bon encore, quoi.
La Juve, il n'y a rien à dire, Simone. On se répète chaque semaine avec la Juve. Il gagne 3-0 face à la Fiorentina.
3-0, Crancedi, Cristiano Ronaldo en train de battre plusieurs records. Aucun joueur nouveau arrivé à la Juve avait marqué autant. 10 buts en 14 matchs. On rappelle que les premières 3 buts, par des Serie A, bien sûr. Les premières 3 matchs, il n'avait pas marqué. Donc, sur la Juve, la seule chose que je veux dire, qu'il a montré d'avoir des supporters très intelligents dans un contexte compliqué avec des relations, conflits supportifs avec les supporters de la Fiorentina, avec quelque chose qui s'est passé dehors du stade Franchi qui n'était pas du tout intelligent et pas du tout beau, des choses qui ont été écrites sur un mur qui sont dégueulasses, et les supporters de la Juve qui à la 13e minute ont chanté le nom de Davide Astori, un hommage au capitaine de la Fiorentina, dans les stades de la Fiorentina. Je pense que c'est ça le message qu'il faut faire passer, que souvent on oublie.
Ton bidon de la semaine?
Il y en a deux, mais c'est une seule. Ça s'appelle Inzaghi, les deux frères. C'est une situation très très compliquée pour les deux. Ils n'arrivent pas vraiment à sortir leur club des situations difficiles, même si c'est sur deux niveaux différents. Bologna, on savait que c'était faible.
Pippo qui est à Bologne. Je t'avoue, moi, ça m'avait échappé. Il était en série B, série C.
Il était à Venise. Il avait fait des bonnes choses en série C après en série B. Et aujourd'hui, Bologne, c'est une équipe qui n'y arrive plus. C'est-à-dire, c'est une équipe qui joue mal, qui n'a pas des jeux, qui est une équipe qui n'est pas fait peut-être pour la première partie du tableau, mais jouer les maintiens, oui, mais là on voit vraiment rien ni aucun signe de lutte. Par contre, Simone, qui est cinquième, c'est pas un désastre la situation de la Lazio. Lui, il a plus les contrôles ni avec son président, avec lui, il a eu plusieurs disputes, le titre c'est un type un peu compliqué, mais on voit qu'il n'arrive plus à trouver des solutions comme il avait fait la saison dernière. Dans les difficultés, la Lazio trouvait toujours quelque chose amené par Simone Inzaghi. Aujourd'hui, il n'arrive plus. Cet match nul face au Chievo, c'est triste, mais encore plus triste, c'était la défaite à Chypre, en Europa League. C'était vraiment les pires moments de Simone Inzaghi sur le banc de la Lazio.